Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jacques et soyez les bienvenus dans le magazine du Tarn de CFM Radio. Aujourd'hui, nous ouvrons une page consacrée à un sujet qui nous concerne tous, le logement. Acheter, louer, rénover, faire face à des impayés de loyer ou simplement mieux connaître ses droits, autant de questions qui trouvent des réponses auprès de la DIL du Tarn, l'agence départementale d'information sur le logement, une structure d'utilité publique qui accompagne chaque année plus de 10 000 Tarnais dans différentes démarches. Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sa directrice, Madame Hélène Roch, et ensemble nous allons explorer les missions de la DIL, ses actualités et les différents dispositifs qui changent concrètement la vie et le portefeuille des Tarnais, que vous soyez propriétaire, locateur ou bailleur.
CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Aujourd'hui, dans ce magazine, nous nous intéressons aux questions en lien avec le logement, avec la DIL du Tarn. La DIL, c'est l'agence départementale d'information sur le logement et qui accompagne chaque année des milliers de Tarnais dans différentes démarches, comme va nous l'expliquer sa directrice, Madame Hélène Roch. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour des questions non pas épineuses, mais qui méritent parfois que l'on s'y intéresse vraiment avec attention, que l'on soit propriétaire, que l'on soit locataire ou encore bailleur. La DIL est là pour nous accompagner. Alors, on va commencer, Hélène, par rappeler ce qu'est la DIL et en quoi consiste votre mission principale.
Alors, la DIL est une association qui dépend d'un réseau national, qui est le réseau ANI-LADIL, et qui a trois missions, avec quand même la mission principale, qui est une mission d'information des ménages sur l'ensemble des questions en matière de logement. Ça va répondre à toutes les thématiques juridiques, financières, fiscales que l'on peut se poser. L'ADIL, en fait, informe de façon neutre, va poser le cadre réglementaire, financier, de la problématique que rencontrent les Tarnais. Et une fois que ce cadre est posé, voilà, va permettre aux gens de prendre une décision en connaissance de cause.
Donc une structure à la fois indépendante, hein, qui est financée par des fonds publics au service direct des habitants, et l'accompagnement que vous proposez est gratuit.
L'accompagnement qu'on propose est absolument gratuit, sachant que on reste, sans que ce soit péjoratif, on reste sur du conseil de premier niveau. Mais ce conseil de premier niveau peut être donné 10 fois, en fonction de l'évolution de la situation, en fonction de l'évolution du problème, en fonction d'une prise de position particulière. Donc, il va être par exemple fréquent qu'on dise, bon, vous faites d'abord cette démarche, qui est une démarche juridico-pratique. La constitution d'une preuve, comme quoi on a demandé quelque chose. Et ensuite, on va demander aux gens de nous recontacter en fonction de la réponse pour voir quelles sont les démarches suivantes.
Aujourd'hui, vous accompagnez plus de 10 000 personnes ici dans le Tarn. Quels sont les profils, on va dire, des usagers qui viennent vous voir couramment, qui sont propriétaires, locataires, futurs acheteurs ?
Alors, en premier, ce sont les locataires qui nous contactent, pour près de la moitié. Ensuite, ce sont les propriétaires occupants. Et ensuite viennent les propriétaires bailleurs. Mmh. Voilà. Après, on a également, on est à destination aussi des professionnels, puisque ça fait partie de la deuxième mission de la DIL, d'avoir une expertise, en fait, pour les professionnels.
De quel genre? Des artisans du bâtiment, par exemple?
Alors, par exemple, des artisans du bâtiment, des courtiers, des agents immobiliers, des opérateurs de terrain, des structures associatives, des travailleurs sociaux.
Des collectivités?
Des collectivités locales, sur, par exemple, la gestion des logements communaux. On va avoir tout type, en fait, de public qui vont nous contacter, mais quand même 90% restent des particuliers.
Alors, quelles sont les grandes questions ou les grandes problématiques que vivent les Tarnais et qu'ils viennent comme ça déposer sur les bureaux de la DIL?
Alors, les grandes problématiques, c'est la difficulté de la relation locative, quand même, le rapport entre le propriétaire-bailleur et le locataire n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce que la réglementation est relativement complexe, qu'on est avec de l'humain. Et que donc, il va falloir gérer, certes, dans un cadre juridique, une relation pas quotidienne, mais quand même fréquente. Alors, il y a toujours deux optiques. L'optique, je veux faire les choses bien, je me renseigne en amont pour savoir effectivement quel est le cadre juridique pour ne pas faire de bêtises. Voilà, donc ça, pour nous, c'est ce qui est le mieux, puisqu'on va être vraiment sur de l'accès à la réglementation. Et on a ensuite la deuxième thématique, qui va être sur des restitutions de dépôts de garantie, sur des congés, sur un moment où il y a un déséquilibre de la situation d'une des parties. Mmh. Où là, on va être plus sur une résolution de problèmes, parce que les protagonistes ne voient pas du tout les choses de la même manière.
Mais il y a toujours ce... ce problème des droits et des devoirs, que ce soit d'un propriétaire ou alors d'un locataire, chacun ne sait toujours pas forcément ce qu'il a à faire. Et on parle beaucoup aussi aujourd'hui d'habitat dégradé, et c'est une question que vous avez pris vraiment à bras le corps. Quels outils avez-vous lorsque un locataire vous dit, tiens, j'habite dans un logement dégradé, vous faites quoi?
Alors, on va être vérifié qu'on est bien dans de la problématique d'habitat dégradé.
Donc vous vous déplacez pour aller faire
une
visite?
Non, on se déplace pas, mais c'est vrai qu'on va énormément discuter avec les gens des problématiques qu'ils rencontrent dans le logement. Mmh. On peut prendre comme exemple le logement sans chauffage, qui est un logement entre guillemets qui n'est pas décent, pour lequel effectivement il y a une action au titre de la décence des logements, et on va avoir la même situation où on a une chaudière qui est tombée en panne. La chaudière qui est tombée en panne, c'est une obligation du bailleur de faire les grosses réparations. On n'est pas d'entrée sur de la non-décence, on est sur un problème de non-respect par le bailleur de son obligation de réaliser les grosses réparations. Une fois qu'on a qualifié le problème et qu'on est effectivement en habitat dégradé, alors les dégradations les plus fréquentes, ce sont des problèmes de ventilation, du coup d'humidité, de moisissure, des problèmes électriques, des problèmes d'insuffisance de moyens de chauffage. C'est quand même ce que l'on rencontre le plus fréquemment. On va effectivement expliquer les démarches amiables. Pourquoi ? Parce qu'une fois sur deux, la démarche amiable, elle aboutit et que c'est vraiment bien. Et donc, en passant quand même dans les rails juridiques, à savoir faire une demande écrite Par courrier recommandé, parce qu'il faut bien une preuve. Et ensuite, il va être possible d'orienter les personnes, hein, parce qu'en fait, on fait de l'information, du conseil et de l'orientation, vers des dispositifs existants. Donc, en termes d'habitat dégradé, on appelle ça la lutte contre l'habitat indigne. Il est possible de faire un signalement. Alors, ce signalement, il est facilité par une plateforme qui s'appelle le Signal Logement, qui va permettre de déposer des photos, de déposer des documents. C'est une démarche que l'on fait normalement après avoir mis en demeure le propriétaire de réaliser les travaux. Et ce signalement, en fait, va être étudié par une commission qui va orienter vers le bon interlocuteur. S'il y a une allocation logement, ça peut être la caisse d'allocation familiale qui déclenche une visite. S'il n'y a pas d'allocation logement, ça peut être les services d'une mairie qui vont faire une visite. Et ça va générer un rapport. Et en fonction de l'état du logement, ensuite, tant la mairie que la caisse d'allocation familiale pourront mettre en œuvre des moyens, alors toujours amiables, hein, mais un peu plus coercitifs pour que le propriétaire remplisse ses obligations.
Mmh. À l'inverse, et aux côtés plutôt là des ménages qui rencontrent parfois des difficultés à payer leur loyer, la DIL aussi est là pour aider à régulariser les choses. Ça passe par quoi là dans ce cas ?
Alors, aider à régulariser, on n'a pas d'aide financière, on ne donne pas d'aide financière. Quand il y a un souci d'impayé de loyer, en fait, la première chose à faire, c'est de prévenir son propriétaire pour justement ne pas le mettre lui aussi en difficulté. Et ensuite, en fait, il y a énormément de dispositifs qui sont inconnus des propriétaires et des locataires. Dispositifs pour demander, mettre en place ce qu'on appelle des plans d'apurement, qui sont des échéanciers, pour éviter des procédures judiciaires. Lorsque les procédures judiciaires s'avèrent nécessaires, on va également conseiller, mais là, côté bailleur, d'agir vite, parce qu'il est toujours beaucoup plus facile d'agir sur une situation tant que la dette reste un peu encadré, pas trop élevé. Et on va expliquer, en fait, aux deux parties, tous les dispositifs qui peuvent être mis en place. Alors, effectivement, il pourra y avoir des interventions du Fonds Solidarité Logement, des interventions d'Action Logement pour les salariés du secteur privé qui vont permettre d'accompagner la mise en place de ces plans d'apurement. La commission de surendettement pourra par exemple être saisie. Le tout, c'est d'arrêter l'hémorragie et donc de reprendre le paiement du loyer et ensuite de mettre en place des dispositions pour traiter la dette. Alors, ce qui est important et ce qui est difficile, c'est qu'on ait, que ce soit sur l'habitat dégradé, que ce soit sur la prévention de l'expulsion, on est sur des dispositifs qui sont transversaux. C'est-à-dire, il y a toujours un volet juridique, qui est un peu la casquette de la DIL. Il y a très souvent un volet nécessaire de situations sociales difficiles, qui souvent va relever d'un accompagnement social ou peut relever d'un accompagnement social. Et il y a ensuite tout ce qui va être administratif, les relations avec la CAF, les relations avec la commission de surendettement, les relations avec une commission qui s'appelle une commission de coordination des actions de prévention de l'expulsion. Et ce sont tout autant de dispositifs en fait qui sont un peu en back-office de la problématique des personnes qui ne sont pas connues et qui méritent d'être connues. Du coup, le rôle de la DIL, c'est, dans le cadre de cet accompagnement socio-juridique administratif, c'est d'accompagner sur le volet juridique.
Et grâce à vous, on apprend tout cela sur CFM Radio. Aujourd'hui, Madame Hélène Roc, directrice de la DIL, vous restez avec nous. On continue à parler de logement et en particulier de rénovation énergétique, parce que celles et ceux qui nous écoutent, je suis sûr qu'ils se demandent alors les dispositifs de rénovation énergétique, ça en est où? Et Hélène Roc, elle aime aussi le rock. Voici David Bowie. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. Auditi, David Bowie sur CFM Radio, le choix musical d'Hélène Rock qui est avec nous aujourd'hui, la directrice de la DIL dans le Tarn. Avec elle, on parle de logement, que vous soyez propriétaire, locataire ou bailleur, ou même une collectivité locale qui a des logements. Et bien, continuez à tendre l'oreille à notre échange, parce que la DIL, c'est à la fois un rôle d'information juridique, mais aussi tout un tas d'accompagnements pour différentes problématiques en lien avec les logements. Et quels sont les types de conseils, Hélène, qu'avec, on va dire, les différents salariés de la DIL, vous êtes amenés à prodiguer le plus fréquemment là actuellement, pour qu'on voie un peu le type de questions aussi que les Tarnais se posent beaucoup sur le logement?
Alors, on a beaucoup de questions en matière locative, parce que le marché locatif dans le Tarn devient un peu difficile. Il y a un peu moins peut-être de logements. Ces dernières années, comme les loyers en fait sont révisés par rapport à des indices, il y avait un peu d'inflation, donc les loyers ont quand même augmenté fortement. On a une problématique de charges, notamment liée à l'énergie. Et donc, on a à l'heure actuelle davantage de questions sur tous les aspects de ce que nous, on qualifie de précarité énergétique. Mmh. Alors, la précarité énergétique, elle a une définition. Ce sont des ménages qui consacrent plus de 10% de leurs ressources au paiement des charges de chauffage, notamment d'eau chaude, de ventilation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions, parce que c'est une problématique qui a été identifiée, qui est devenue une politique publique en fait dans les à partir de 2009. Et il y a des outils qui ont été mis en place. Alors on parle de diagnostic de performance énergétique, on parle d'audit énergétique. Sur d'autres choses, on va parler d'études thermiques. Il y a eu la mise en place du chèque énergie. Il y a eu des boucliers pendant l'explosion du prix du gaz et de l'énergie de façon plus globale. Il y a eu des boucliers qui ont des boucliers énergétiques tarifaires qui ont été mis en place. Et ça reste une problématique assez quotidienne. Alors, que nous remarquons peut-être parce qu'elle est un peu nouvelle, mais on a quand même beaucoup de questions. Beaucoup de gens qui se questionnent. Et c'est vrai que les réglementations, entre le moment où elles sont écrites, le moment où elles s'appliquent vraiment, il faut toujours compter au moins 10-12 ans. Donc 2009, voilà, on est maintenant sur des notions qui sont beaucoup plus rentrées dans l'esprit des gens. Et qui est parfois où les gens vont chercher une réponse, en fait. Et bon, nous, on va leur expliquer le cadre juridique, toujours. On va aller pourquoi pas vers la rénovation des bâtiments derrière. Mais c'est vrai que c'est une problématique qui est assez prégnante ces temps-ci.
Mais tiens, parlons de rénovation, parce que la rénovation énergétique a été beaucoup à l'ordre du jour ces dernières années. Quand on parle d'actualité, des actualités sur le logement, il y a eu différents dispositifs de rénovation énergétique développés, mis en place, financés par le gouvernement. Alors là, ces derniers temps, il y en a certains qui étaient sur pause, d'autres qui ont été annulés tout simplement, d'autres qui reprennent. Est-ce que tu peux nous faire un peu un tour d'horizon de ce qui existe aujourd'hui en termes de primes rénov et consorts?
Alors, on va commencer par les consorts. alors, il y a eu une pause sur un dispositif qui s'appelle ma prime rénov, rénovation d'ampleur. La rénovation d'ampleur, c'est d'abord traiter l'isolation des logements, puisqu'il faut au moins 2 gestes d'isolation, et il faut faire un saut de classe énergétique. C'est-à-dire que si on est dans un logement qui est en E, il faut au minimum arriver à du C, en termes d'audit énergétique et d'amélioration de la performance énergétique. Alors ce dispositif a très très bien marché.
Peut-être trop bien, finalement.
Et un peu trop bien, parce qu'en fait, la machine a un peu trop chauffé.
Ouais, en gros, l'enveloppe qui était prévue pour ça
L'enveloppe qui était prévue, c'est-à-dire que déjà, il y avait beaucoup de dossiers déposés qui étaient en attente. Donc, il fallait d'abord traiter ces dossiers pour savoir où on allait sur l'enveloppe budgétaire qui n'était pas du tout consommée. L'idée c'était ça, mais c'était faire une pause à un moment donné pour se dire, une fois qu'on aura instruit tous les dossiers qui sont déjà déposés, combien restera-t-il? Voilà, donc ça a pris l'été. Résultat des courses, la plateforme sur la rénovation énergétique pour de la rénovation d'ampleur, avec ma prime rénov, réouvre le 30 septembre.
D'accord.
Mais de façon tout à fait confidentielle.
Donc on ne le dit pas, mais ça réouvre le 30 septembre, la plateforme de rénovation pour déposer ses dossiers. Quoi.
La plateforme réouvre, elle réouvre pour les ménages qui ont les ressources les plus basses, qui ont des logements qui sont un peu des passoires thermiques, parce qu'il faut que sur l'audit initial on ait du E, F ou G. Donc on est quand même, F et G ce sont des passoires thermiques, E on n'est pas loin. D'ici la fin de l'année, en fait, il n'y a que 13 000 dossiers qui pourront être déposés. Ça va, je pense, aller très vite sur le dépôt des dossiers. Alors au niveau de la DIL, on est toujours sur un principe de réalité. On pourrait dire, le dispositif est écrit, il y a le décret. À partir du moment où on sait que dans les starting blocks, il y a quand même énormément d'accompagnateurs qui ont des dossiers qui étaient... non pas en instruction, mais qui étaient en cours de montage et qui ont été suspendus. Voilà, on sait que les 13 000 dossiers sur le territoire national vont être relativement vite consommés. Voilà, donc ça nous projette sur 2026. C'est pas très grave. Une personne qui commence à se questionner sur ses travaux, comment faire, etc. De toute façon, avant d'avoir réuni les devis, avant d'avoir contacté l'opérateur, avant d'avoir eu un audit, de savoir exactement le mieux en termes de qualité thermique de ce qui doit être envisagé, ça prend quand même quelques mois. Donc les personnes qui, à l'heure actuelle, se pose la question, c'est bien de s'interroger maintenant. Mais parce qu'on sait que ce sont des dossiers qui vont être déposés en 2026. Alors, les montants de subventions ont quand même été réduits à la baisse. Cependant, il y a encore des subventions.
Ça reste quand même
ça reste quand même intéressant.
Ouais,
Après, c'est vrai que ma prime Rénov, Réno d'ampleur, a été un peu victime de son succès. Cela étant, il y a un autre dispositif, qui est le dispositif Ma Prime Rénov par geste, qui concerne les personnes aux revenus très modestes, modestes et intermédiaires, et qui sont des subventions en fonction du type d'action que l'on va faire. Alors, qui était axé sur, hormis les clims pompes à chaleur RR, qui ne sont que très rarement aidés, sauf en réno d'ampleur, sur le monogeste, on était tant sur l'isolation que sur les modes de chauffage. Voilà, donc ce qui se profile en 2026, c'est que quand même sur l'isolation, on va garder surtout l'isolation des toits, avec des procédés un peu compliqués, isolation en rampant, isolation des plafonds, et davantage axé sur le chauffage, notamment les pompes à chaleur et les poêles. Voilà, donc on a, c'est un peu la difficulté de la deal, parce qu'on renseigne à l'instant T, et à l'instant T, on ne sait pas ce que sera la loi de finances pour 2026.
Ah, nul ne le sait maintenant.
Nul ne le sait, je pense. Ouais. Et on est toujours, tout un chacun, on est soumis effectivement à ces stop and go liés à des contraintes budgétaires ou pas. Et si l'enveloppe, à l'heure actuelle, je ne dirais pas de bêtises, mais on était sur ma prime rénov', je crois, sur une enveloppe de 3,6 milliards. Elle n'a pas bougé en 2025, mais elle a été consommée plus vite que prévu.
Eh bien, quid de 2026, on le verra toujours avec vous, Hélène Roch, directrice de la DIL 81. On va terminer par rappeler les différents moyens de prendre attache avec la DIL 81 et où est-ce qu'on vous trouve?
Alors, pour prendre attache avec la DIL, le mieux, c'est de nous téléphoner. Alors, vous trouverez nos coordonnées sur adil81.org. Parce qu'on a, en fait, on a la double casquette, puisqu'on est espace conseil France Rénov', où on va conseiller, alors là, sur les aspects juridiques, financiers, fiscaux, bien sûr, mais également techniques de la rénovation. Dans le cadre de cet espace conseil France Rénov', on va aussi renseigner sur l'adaptation du logement, où là, effectivement, on n'est plus sur de la rénovation énergétique, mais sur de l'adaptation au vieillissement ou au handicap. Et on va aussi renseigner sur le volet technique de cet aspect-là. Et on a ensuite la casquette beaucoup plus juridique et financière et fiscale, parce que pour les propriétaires bailleurs, il peut y avoir des avantages fiscaux liés à la rénovation. Et là, on va le faire plus côté Adil. Donc, il y a deux numéros de téléphone. Donc, je vous invite plutôt à regarder le site adil81.org.
Et puis, on vous trouve au numéro 3 du boulevard Lacombe à Albi.
Et dans 8 ou 9 autres villes du département, puisqu'on tient des permanences, en fait, pour que les gens n'aient pas à se déplacer forcément loin. Donc, on est sur l'ouest du département, Lavaur-Saint-Sulpice, Gaillac et Groyer. Sur le sud, on est sur Castres-Mazamet-Lacône, et ensuite Carmaux, et bien sûr le siège social à Albi.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Hélène Roch, directrice de la DIL 81, d'avoir été avec nous pour éclairer nos auditeurs sur les missions et les actions de cette agence. On rappelle que la DIL est là pour informer, conseiller et accompagner gratuitement tous les Tarnais sur des questions en lien avec le logement, qu'ils soient locataires, propriétaires, en projet d'achat ou alors bailleurs aussi. N'hésitez pas à les contacter ou à consulter donc le site internet www.adil81.org. Bonne journée.
Merci, de même.